Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec un gars qui pourrait pourtant sacrément se la raconter plus qu'un animateur, c'est quasiment un demi-dieu. Une légende vivante, à la carrière vertigineuse, il a tout été. Journaliste, auteur, producteur, conseiller politique, créateur de jeux à gratter, il ne lui reste qu'un rêve secret.
Devenir mannequin.
Mais pourquoi pas ? Un rêve désormais à la portée de main, puisque vous avez un nouveau régime, Stéphane, tout est possible.
C'est l'ancien régime.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous. Comment peut-on dire autant de bêtises en un laps de temps si court?
Vous me fascinez. Mais vous avez... Oui. C'est aussi pour ça que je vous aime bien. Ensemble, comme chaque après-midi, nous réunissons trois personnages très différents. Ils ne vivaient pas à la même époque, mais ils avaient un point commun. Aujourd'hui, celui d'être d'habiles calculateurs. À commencer par celui qui a usé de tous ses talents et de toutes les manigances pour se faire une place de choix à la cour du roi Louis XIII, le cardinal Mazarin. Puis avant lui, c'est un autre calculateur qui a su placer ses pions. Un prince italien qui a séduit la France, fin stratège et roi des alliances, je vous raconte le duc de Nevers. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un vrai calculateur.
Oui Stéphane, loin de vos finasseries, en habile calculateur, je vous raconte moi l'histoire d'un génie du calcul, on le surnomme le Matelette, et pour cause, Alexis Lemaire détient plusieurs records du monde de calcul mental. Tenez Stéphane, 3 plus 6
9.
Oh la vache, Alexis Lemaire peut trembler. Oh là là.
Et avec nous, comme chaque jour, il compte beaucoup pour nous. Ce sont nos chroniqueurs. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Caltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et oui, et là je vais vous entraîner dans l'intimité de Blaise Pascal, qui était lui aussi un génie des maths et un habile calculateur, puisqu'il a inventé la première machine à calculer, à laquelle il a donné son nom, la Pascaline. Mais si c'est entré dans son intimité, c'est parce qu'il a fait ça pour son papa, par amour filial, pour un père qu'il voyait suer sang et eau sur ses opérations. Et donc il s'est dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour
c'est
mon
beau.
Papa, c'est beau. Hein.
C'est très très
la
beau.
La Pascaline.
Lui aussi est très beau. C'est David Castello-Lopez. Chaque jour, l'origine.
Je ne sais pas lui le dire,
mais il est content quand même. Aujourd'hui, David, un striptease en vue, puisque je rappelle que vous testez chaque invention que vous nous présentez. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'origine du tatouage.
Oui, alors là, je ne l'ai pas fait.
Je ne l'ai pas fait. C'est décevant.
Je n'ai pas de tatouage. Je pense que je n'en aurai jamais. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que autour de la table, quelqu'un a un tatouage?
Stéphane?
Non, aucun.
D'accord, c'est très bien. Je vais pouvoir dire vraiment ce
sur
que je
Europe 1, vous savez, il n'y a pas de tatoué.
Avec nous également, regardez-le, Stéphane. Il est là, il est magnifique. Oui,
il
est aussi magnifique. C'est Olivier Pouls. Il rayonne.
Faire tatouer une batterie de casserole sur le,
oui,
sur le dos, par exemple.
Ou tout simplement sur les fesses, chili con carne.
Voilà, par exemple. L'endroit est bien choisi.
C'est une belle, ouais. C'est une belle vision, là.
Évidemment.
C'est le plat dont vous nous parlez aujourd'hui.
Oui, j'adore le chili con carne, mais d'où vient-il? Qui l'a inventé?
Certainement du chili. Non,
hein, pas forcément.
Je tente.
Chili, ah, c'est drôle, chili con carne.
Oui, Stéphane, évidemment. Je pensais que ça venait de là. Enfin, c'est un besoin humain, jouer, se mesurer à l'autre, un besoin que je vous permets d'assouvir chaque jour vers 5h10 avec Burn to be Alive, le quiz qui fait du bien, sauf à ceux qui y jouent. Mais tout de suite, découvrons notre premier grand calculateur de l'histoire. Et confiance, ils sont nombreux à la cour à avoir eu toute confiance en lui. Le roi Louis XIII, le premier, il faut dire qu'il a tout fait pour se faire apprécier. Stéphane Bern nous raconte un cardinal passionné et calculateur, le cardinal Mazarin.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1607 à Rome. Ce jour-là, le jeune Giulio Mazarini, âgé de 5 ans, accompagne sa mère à l'office de l'église San Onofrio. Les autres enfants somnolent ou regardent les mouches voler. Lui, en revanche, ne perd pas une miette des sermons entendus et les déclame ensuite en public. Pur exercice de mémoire, ce serait déjà impressionnant. Mais en plus, il a l'air de comprendre ce qu'il raconte. Et il y met tant de cœur et d'esprit que l'assistance est conquise. Au point qu'un riche vénitien de passage offre de l'argent pour financer les études du jeune prodige. Cette anecdote est-elle vraie? Rien n'est moins sûr, mais toujours est-il qu'elle illustre bien la personnalité et le destin du cardinal Mazarin. Celui qui deviendra le principal ministre de Louis XIII, puis du jeune roi Louis XIV, était infiniment séduisant. Il le savait et il en a joué pour atteindre les plus hautes fonctions de l'État français. Revenons aux origines. Giulio Mazarini, né le 14 juillet 1602, grandit à Rome. Son père exerce la fonction d'intendant pour une famille princière, les Colonna, ce qui permet à Giulio Mazarini de côtoyer l'élite très tôt, puisqu'il accompagne les enfants Colonna dans leur éducation, mais aussi dans leur jeu. Giulio Mazarini partage certes le quotidien de la jeunesse dorée de Rome, mais il comprend vite que cette faveur peut être éphémère. Pour se maintenir, il se rend indispensable, serviable, et amuse la galerie par sa langue agile. Bref, jeune homme, il apprend déjà à plaire aux puissants de ce monde. Âgé d'une vingtaine d'années, l'ambitieux Giulio Mazarini rejoint l'armée pontificale d'abord comme capitaine d'infanterie, puis comme secrétaire au sein d'une légation papale. Pendant la guerre de succession de Mantoue, il se fait connaître par un premier coup d'éclat. Alors que les troupes impériales et françaises sont à deux doigts d'en venir à l'affrontement, Giulio Mazarini surgit au milieu des armées, brandissant un document et criant « Pace, pace !» la paix en italien. Ayant fait croire à chacun des camps que l'autre a accepté la paix proposée, il parvient à leur faire signer un armistice. Après cet astucieux stratagème, Giulio Mazarini est envoyé comme diplomate en France par le pape Urbain VIII. Il profite de ce séjour pour faire la conquête du ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu. Détesté d'une grande partie de la noblesse et donc relativement isolé, Richelieu décide de prendre à son service le jeune et aimable diplomate italien qui quitte Rome et adopte la nationalité française. Giulio Mazarini devient Jules Mazarin. Il peut posséder désormais des biens et des revenus en France, ce dont il ne va pas se priver. Il acquiert des terres, touche des pensions, sans parler des bénéfices provenant de toutes ses abbayes. Il en aura plus de 20 au total. Avide de richesses, Mazarin n'hésitera pas à piocher dans les caisses de l'État, mais à sa décharge, c'était monnaie courante à l'époque. Richelieu parvient aussi à le faire nommer cardinal, alors que Mazarin n'est même pas prêtre. Quelle ascension ! Grâce à ce nouveau statut, le roi l'appelle « mon cousin ». Et dans la hiérarchie de cour, il est au-dessus des princes du sang. Ce n'est pas tout. À sa mort, Richelieu désigne Mazarin comme son successeur. Le voilà donc principal ministre de Louis XIII, qui en outre le choisit comme parrain du dauphin, futur Louis XIV, avant de mourir à son tour en 1643. Louis XIV est encore trop jeune pour gouverner. Sa mère, Anne d'Autriche, est donc nommée régente du royaume. C'est une aubaine pour Mazarin, car la reine l'apprécie énormément. Un peu trop, peut-être. Avec ses yeux sombres, ses cheveux bruns et sa moustache hardiment retroussée, on dit qu'il ressemble au comte de Buckingham, un Anglais dont la reine, selon les rumeurs, fut un temps éprise. Anne d'Autriche ne résiste pas au charme de Mazarin. Il faut dire aussi que le séducteur lui fait des rondes jambes depuis quelques années. Déjà, lors de son premier séjour à la cour, il avait su se montrer particulièrement courtois. Je vous conte une anecdote dont les sources sont malheureusement invérifiables. Mazarin avait appris que Louis XIII tenait les cordons de la bourse étroitement serrés, ce qui fait que la reine manquait toujours d'argent. Ayant beaucoup gagné au jeu, lors d'une partie où elle assistait, Mazarin lui fit présent de quelque 5000 écus, au motif que sa présence lui avait porté chance. Embarrassée, la reine avait commencé par refuser avant de céder devant la courtoise insistance du cardinal. Pour entretenir leur amitié, le cardinal aurait aussi pris l'habitude de lui envoyer des petits cadeaux, tels que des éventails, des eaux de senteur ou des gants parfumés. Mazarin et Anne d'Autriche étaient-ils amis ou amants même? On a longtemps spéculé sur les liens qui les unissaient. Certains ont même évoqué l'idée d'un mariage secret, ce qui est, il faut bien le dire, très peu probable. Séducteur, certains disent même obséquieux, une chose est sûre, Mazarin sait se rendre indispensable à la régente et l'incite à se décharger sur lui du poids des affaires. Anne d'Autriche tient à distribuer elle-même grâces et faveurs aux nobles de la cour. Le ministre n'hésite pas à mettre son grain de sel. Sa Majesté ne doit pas se précipiter à accorder des grâces, mais les retenir et les faire filer petit à petit. Et de cette manière, elle sera plus considérée et on fera plus cas de ses grâces, lui explique le rusé ministre. Alors que l'on veut dépouiller les proches du défunt Richelieu de leurs fonctions à la cour, Mazarin bataille pour sauver la famille de l'ancien ministre. Comme toujours avec lui, on peut hésiter sur ses motivations. Générosité ou calcul ? En agissant ainsi, Mazarin s'assure certes des partisans, mais il se fait aussi de nombreux ennemis, bien décidés à l'éliminer. Les anciens amis d'Anne d'Autriche trouvent que ce nouveau venu d'Italie prend décidément beaucoup de place, au point que quelques mois après son arrivée à la tête du gouvernement, on a tenté de l'assassiner. Pour Mazarin, l'avertissement est rude. Jusque-là, le ministre avait comme stratégie d'avancer à pas feutrés. Désormais, il affiche une position qui ne laisse aucun doute sur son importance. Il dose avec soin ses apparitions publiques, se montre en compagnie de la reine et dépense sans compter. Il favorise également les membres de sa famille en les faisant venir à Paris pour les marier dans de grandes familles princières, d'autant que cela lui permet, par la même occasion, de nouer des alliances stratégiques. Au-delà de ces intrigues de cour qui lui prennent beaucoup de temps, le ministre a fort à faire. Il met fin à la guerre de 30 ans entre la France, les États allemands, l'Espagne et les pays du Nord grâce au traité de Westphalie et devra aussi gérer une guerre avec l'Espagne. Aux conflits extérieurs s'ajoute une guerre civile. Dès 1648, nobles, princes et parlementaires se révoltent contre le pouvoir royal et s'attaquent violemment à Mazarin. C'est la Fronde. Pour sa sécurité, le cardinal fuit. De l'étranger, Mazarin parvient tout de même à contrôler la situation en transmettant ses ordres à la reine Anne d'Autriche. Il engage aussi des hommes de confiance restés sur place, comme Nicolas Fouquet et Jean-Baptiste Colbert, qui s'occupent en sous-main de la gestion de ses biens. Finalement, la plupart des frondeurs se soumettent à Louis XIV, devenu majeur, et Mazarin, rappelé par le roi, rentre définitivement à Paris. En 1661, Mazarin sent sa mort approcher et joue sa dernière partie en écrivant un testament dans lequel il lègue tout ce qu'il possède à Louis XIV. Très court, le testament stipule que, puisque la fortune de Mazarin provient des bienfaits du roi, tout revient à ce dernier. L'habile calculateur sait très bien que Louis XIV refusera l'héritage au profit de sa propre famille, mais par ce geste, il légalise sa fortune d'origine douteuse. Au-delà de ses petites mesquineries, Mazarin a bien préparé sa succession. Il emploie ses derniers instants à transmettre au roi ses connaissances de l'échiquier politique. Quand le cardinal s'éteint, Louis XIV se retrouve à la tête d'un pays où l'autorité royale a été restaurée. Mazarin a certes usé et abusé de manigances, mais il ne l'a pas fait en vain.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du cardinal Mazarin, nous sommes avec celui qui lui consacre une nouvelle biographie, l'historien Olivier Poncet. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Olivier Poncet, vous venez en effet de publier Mazarin, l'art de gouverner aux éditions Perrin et BNF. Le cardinal Mazarin a eu une ascension sociale exceptionnelle. Je racontais que le roi Louis XIII l'appelait mon cousin, qu'il était même supérieur au prince du sang. Comment vous l'expliquez ?
En fait, tous les cardinaux sont supérieurs au prince du sang, si vous le voulez, dans la mesure où, à la cour, ils ont une position assez exceptionnelle. Mais Louis XIII a dû rappeler au prince du sang que tel était le cas. Et donc, dans le livre, je montre une lettre où, effectivement, le roi rappelle au prince de Condé qu'il doit céder le pas au prince Mazarin, qui était, effectivement, le personnage le plus aimé du roi à ce moment-là.
Dans votre livre, vous écrivez que Mazarin a joué une part dans la construction de l'État absolutiste moderne. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur la définition de l'absolutisme en politique et en quoi il y a contribué?
Alors l'absolutisme, c'est à la fois une théorie et une pratique de gouvernement qui se développe en Europe entre le 15e et disons le 18e siècle, qui consiste à, en fait à laisser le pouvoir absolu, c'est la définition, à un seul homme, en l'occurrence le monarque, en refusant en quelque sorte l'existence de contre-pouvoir. Et en France, globalement, on estime que c'est Louis XIV qui a le mieux incarné cette vision du monde et du gouvernement.
Je racontais tout à l'heure dans mon récit que Mazarin avait dupé l'armée pontificale et l'armée française en faisant croire à chacune que l'autre avait proposé la paix. Au fond, sa première des qualités, c'est d'être un grand orateur et peut-être un fin diplomate ?
Exactement. C'est quelqu'un qui sait jouer avec les mots, qui sait tromper quand il estime que le but politique poursuivi le mérite et qui sait donc effectivement parfaitement calculer sa prise de parole. Ses silences également, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup mais qui également ne répond pas toujours à ce qu'on lui demande. Et donc c'est quelqu'un qui est effectivement à l'habitude de traiter avec les hommes par un art de la parole qu'il maîtrise à merveille.
Est-ce qu'il avait d'autres qualités qui lui ont permis de cette ascension fulgurante?
Je crois que l'une de ses qualités, c'est la patience. C'est quelqu'un qui endure énormément, on l'a vu au moment de la Fronde, qui sait attendre le bon moment et qui a une espèce de vista politique, si vous voulez, qui lui fait choisir à chaque fois la bonne position à prendre et surtout le moment de l'exercer. Il peut être extrêmement dur, mais il sait aussi s'effacer quand le moment n'est pas le bon, si vous le voulez.
Quelle était la personnalité de Mazarin, selon vous ? Dans le livre, vous le décrivez comme un homme d'État à la fois passionné et froidement calculateur. Est-ce qu'il n'œuvrait vraiment que pour lui-même ?
Alors, il ne s'est jamais oublié à chaque fois qu'il a gouverné, mais en effet, s'il est resté aussi longtemps au pouvoir, c'est qu'il ne se contentait pas finalement de s'enrichir ou de travailler pour lui, mais aussi pour l'intérêt du royaume. Et de ce point de vue, on peut considérer que l'œuvre de Richelieu a été essentiellement accomplie par Mazarin dans la mesure où il a fini le travail de Richelieu. Et donc si on voit en Richelieu un homme d'État, il faut aussi voir en Mazarin un homme d'État.
Mais est-ce qu'au fond, l'élève a fini par surpasser le maître ? Il a non seulement poursuivi la politique de son prédécesseur, mais il lui a succédé et peut-être s'est enrichi davantage.
Alors, la fortune de Mazarin est probablement celle qu'on peut considérer comme la plus importante qu'un homme, un individu ait possédée durant l'Ancien Régime en France. Donc, de ce point de vue, il a complètement dépassé Richelieu, qui n'était pas non plus un manchot en la matière. Mais c'est quelqu'un qui, effectivement, a su choisir au moment où il le fallait les bonnes voies pour accomplir un destin que Richelieu lui avait tracé, mais qu'il a su effectivement tout seul se trouver. Et la paix avec l'Espagne, c'est véritablement un chef-d'œuvre de diplomatie que l'on peut estimer comme une des plus belles réussites dans la matière, dans l'histoire de France à l'époque moderne.
Mais comment il se situait par rapport à Richelieu ? Vous dites qu'il ne voulait pas être un autre Richelieu. En même temps, il défendait sa mémoire sans être dans la nostalgie du passé. Comment il s'arrangeait pour être le successeur de Richelieu ?
En fait, Mazarin n'avait pas tout à fait les mêmes considérations que Richelieu, par exemple, vis-à-vis de la noblesse. Richelieu souhaitait l'abaisser, souhaitait la maintenir à l'écart du pouvoir. Mazarin souhaitait l'associer. Mazarin avait un respect inné, si j'ose dire, en tout cas appris à Rome, pour cette élite sociale que constituait l'aristocratie. Et de ce point de vue, il y a une vraie différence entre les deux. Là où, en revanche, les deux se rejoignent, c'est qu'ils sont décidés à œuvrer pour la plus grande gloire du roi. Et de ce point de vue, quand l'aristocratie peut contribuer à celle-là, Mazarin est volontiers décidé à l'associer au pouvoir. Mais quand elle dépasse ou quand elle veut commander à la place du roi, là, Mazarin, évidemment, n'est plus d'accord.
On sait, parce qu'on a tous vu les romans de Cap-et-d'Épée, combien Richelieu était détesté par ses contemporains, le peuple, la noblesse, etc. Qu'en est-il de Mazarin ? Je racontais qu'il y a eu une tentative d'assassinat, mais est-ce qu'il avait des ennemis à la cour ? Qui lui en voulait ? Est-ce qu'il était aimé ou détesté ?
Mazarin n'était pas aussi détesté que Richelieu, dans le sens où on ne lui prêtait pas des desseins noirs. Il n'a jamais fait assassiner personne. Les procès politiques suivis d'une exécution n'étaient pas de son goût. Et de ce point de vue, il y a une vraie différence de pratique gouvernementale entre les deux hommes. Après, il incarnait un pouvoir ministériel qui était détesté par les nobles, qui considéraient qu'il usurpait en quelque sorte une place qu'il devait leur être réservée auprès du roi. Et par conséquent, Mazarin a pu également être détesté. Il a d'une certaine manière servi un peu de paratonnerre pendant la Fronde, où toutes les haines finissaient par se mettre sur sa tête. Et de ce point de vue, il en a finalement assez bien joué, parce que justement, les Mazarinades, il les a laissés filer sans finalement beaucoup y répondre.
Et puis ça protégeait le roi, évidemment.
Exactement, le but c'était ça.
Après la tentative d'assassinat qu'on a évoquée, Mazarin a décidé de se montrer encore plus au grand jour. C'est plutôt étonnant. C'était quoi l'idée derrière cette stratégie ?
L'idée, c'est de montrer qu'il ne craignait rien. L'idée, c'est de montrer que le roi le protège, que le pouvoir est légitime, en tout cas celui qu'il détient, c'est celui du roi. Et donc, il n'a rien à craindre, effectivement, de la foule. Mais encore une fois, personne ou presque n'a voulu attenter à sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, alors qu'on sait très bien que pour Richelieu, c'est plutôt l'inverse, en quelque sorte.
Alors, il y a un sujet qui, évidemment, nous passionne et passionne les auditeurs, sont les relations qu'entretenaient Mazarin et la régente Anne d'Autriche, veuve de Louis XIII et mère du futur Louis XIV. Selon vous, c'est une forme d'amour platonique, une relation de confiance, d'amitié ou charnelle, je ne sais pas.
Les relations qu'ont entretenues les deux personnes, évidemment, ne nous sont pas connues dans le détail, mais certaines lettres donnent à penser qu'une reine ne devrait pas écrire cela à son ministre avec des formulations assez enflammées, auxquelles Mazarin répond, mais de manière mesurée. Ce que je trouve remarquable en tant qu'historien, c'est que finalement, cette passion, qui aurait pu être charnelle éventuellement, n'est jamais avancée dans les Mazarinades comme une dénonciation finalement d'une limite qu'aurait franchi le ministre. Mazarin et Anne d'Autriche ont effectivement éprouvé une passion commune pour le roi, pour le jeune roi, et on gouvernait dans son intérêt. Donc, amour platonique possible, amour charnel très improbable, mariage, à mon avis, totalement impossible, si vous voulez que je réponde sur ces points-là.
Stéphane raconte également que Mazarin a connu une guerre civile, la Fronde, en 1648. Comment autant de nobles et de princes ont pu s'élever contre le pouvoir royal? C'était dangereux pour eux aussi.
Alors, c'est une habitude relativement établie dans la noblesse française depuis les guerres de religion que de se montrer finalement élevé contre le pouvoir royal et de manifester bruyamment, voire les armes à la main, leur mécontentement d'être écarté d'un rôle de conseiller traditionnel qu'ils estiment devoir leur être dû. Et un étranger qui devient le principal ministre du roi est quelque chose d'assez insupportable, d'autant que Mazarin doit appliquer une politique à la fois fiscale, militaire, qui ne leur convient pas toujours. Et donc le risque que vous évoquez, ils l'ont volontiers pris, d'autant qu'ils trouvent des alliés dans la personne des magistrats, des bourgeois et du peuple, qui évidemment supportent l'essentiel de l'effort fiscal de la guerre.
Au fond, il a beaucoup œuvré pour les jeunes années de Louis XIV. Quel royaume de France laisse-t-il à Louis XIV à sa mort?
D'abord, il lui laisse un royaume agrandi, de l'Artois, du Roussillon. Il lui laisse un royaume en paix. Il lui laisse également un royaume où il a su imposer, au cours des années 1650, une réduction à l'obéissance du roi pour tous les nobles qui s'étaient élevés durant la Fronde. Donc il lui laisse une noblesse, je dirais, en ordre de marche, fidèle. Et surtout, il a installé l'idée, petit à petit, que désormais, le roi doit gouverner seul. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, c'est que Mazarin, en fait, en mourant, s'efface la figure du ministre que Richelieu et lui-même avaient ainsi établi pendant pratiquement 4 décennies.
Mais merci beaucoup, Olivier Poncet. Je rappelle l'excellente biographie que vous consacrez au cardinal Mazarin, « Mazarin, l'art de gouverner », qui vient de paraître aux éditions Perrin et BNF. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle prend soin de taper à la machine à écrire avant de nous les dire. Eh oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, de machine, il est question, puisque vous nous racontez l'inventeur de la première machine à calculer, Blaise Pascal, le mathématicien. Un excellent calculateur.
Mais vous imaginez bien que même la machine, c'est déjà un peu moderne pour moi. Moi, j'ai une plume d'oie, naturellement.
Ah oui.
Je taille avec une lime à ongles. Oui, Blaise Pascal, il est né, lui, le 19 juin 1623 à Clermont. Ça s'appelait Clermont à l'époque. Les deux villes n'étaient pas encore réunies. Clermont et Ferrand, c'est venu ensuite.
Ah, oui, d'accord.
Et vous l'avez dit, Stéphane, on associe plutôt son nom à la théologie, à la philosophie, et notamment à travers, bien sûr, ses fameuses pensées. Mais c'était aussi un génie des sciences, un génie précoce du genre Mozart. Hein. À 11 ans, il avait déjà composé un traité des sons. À 12 ans, il travaillait sa géométrie et à 16 ans, il a produit un essai mathématique. Je ne comprends même pas de quoi il s'agit. C'est sur les sections coniques. Ne demandez pas ce que c'est. Moi, je ne sais même pas résoudre une équation du second degré. Et dans son traité, produit à 16 ans, il y a un théorème mathématique qui est tellement compliqué, pertinent, que Descartes, en le découvrant, a cru que c'était le père de Blaise qui l'avait imaginé et non pas lui. Bref, c'est vraiment un enfant précoce et génial. Mais comme c'est aussi un fils aimant et qu'il voit son père toute la journée faire des calculs, parce que son père, par sa profession, passait son temps à calculer. Hein. Mmh. Et donc, Blaise se dit, pour mon papa, je vais imaginer une machine à calculer capable d'effectuer des additions, des soustractions. Il n'a que 19 ans à cette époque-là, on est en 1642. Que faisait son père dans la vie, allez-vous me demander?
Il était comptable.
Exactement, il était conseiller à la cour des aides de Montferrand et il est nommé par Richelieu en janvier 1640 commissaire du roi pour l'impôt et la levée des tailles, d'abord à Rouen, puis à Paris. La taille, je le rappelle, c'est un impôt direct dont le nom vient du petit bâton, une petite baguette de bois fondue qui permettait de conserver la trace de valeurs chiffrées. Et à l'époque, on faisait donc tous les calculs avec des jetons ou en posant les additions. Vous savez sans doute, le mot calcul dérive du mot latin calculus. Et calculus, ça veut dire... Qu'est-ce que c'est un calculus? Vous savez ce que c'est?
Non.
Donc, un calculus, c'est un petit caillou. Donc, on commence par calculer avec des cailloux, comme nous, on avait des...
Calcul rénaux.
Calcul rénaux. Après, il y a eu le boulier. Mais le boulier, c'est jamais que des petits cailloux comme des perles. Vous vous souvenez, quand on était petits, on avait des bûchettes. Des bûchettes en bois, toutes les couleurs. Je me demande si ça existe encore à la maternelle. J'adorais les bûchettes, je trouvais ça joli.
Il n'y a même plus de tout ça a disparu.
Non, peut-être qu'ils sont sur ordinateur pour apprendre à compter les enfants, je ne sais pas. Je verrai ça quand je serai grand-mère. Alors, cette calculatrice, en tout cas, elle permet de faire en un temps record addition, soustraction, multiplication et division. Et Pascal a eu l'idée de miniaturiser des pièces qu'on utilisait dans des horloges et dans les moulins à eau. Non, cet homme était prodigieux. Et la machine était agrémentée de petits trous et d'un sautoir. Et toute la grande affaire de Pascal va être d'essayer de limiter le coût de sa machine pour pouvoir la commercialiser. Cette Pascaline, la machine à calculer de Pascal, donc première machine à calculer, première machine utilisée dans un bureau, première machine à avoir été décrite dans l'encyclopédie, première machine à calculer commercialisée, première machine brevetée et la première à avoir été copiée. Hein, qu'est-ce que vous dites de ça? En 3 ans de recherche, il va fabriquer 50 prototypes, tous différents, en bois, en ivoire, en ébène, en cuivre, et puis 20 pascalines abouties. Et il dédie la première qui sera opérationnelle au chancelier Séguier, c'est en 1645. Le problème, c'est que la commercialisation de cette machine n'a pas fonctionné parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher. C'était 100 à 400 livres. Je l'ai regardé sur mon site Chéri de conversion des monnaies. Ça fait entre 3500 et 14 000 euros. Alors, c'est pas un particulier qui pouvait s'offrir ça. Il a cherché à en faire de plus simple et c'est là qu'il a eu un accident de carrosse, fracture du crâne, et il a définitivement abandonné les sciences pour la philosophie et la religion, et c'est bien dommage. 9 de ces machines ont survécu jusqu'à nos jours. Il y en a 2 à Clermont-Ferrand, au musée Henri Lecoq, et 4 à Paris, au musée des Arts et Métiers. Vous pouvez aller la voir, c'est très touchant de voir ça. Et pour faire cette chronique, je suis allée regarder un peu des histoires de bouliers, de calculs, etc. J'ai lu qu'au Japon, en 1946, on a organisé une compétition entre un Japonais avec son boulier. Donc, on appelle ça un soroban. C'est un soroban, un boulier japonais. Ça existe depuis 2000 ans. Et un Américain qui avait une machine à calculer électrique dernier cri. Et qui a gagné?
Le boulier japonais.
Exactement. C'est Kiyoshi Matsuzaki et son soroban qui ont gagné la compétition, sauf dans les multiplications. Autant vous dire que le soroban et la pascaline de nos jours pourraient en compter. Ah, c'est bien le cas de le dire. Quel beau jeu de mots. À bien des ordinateurs.
Et Clémentine, si on veut tout savoir...
Oui. Il y a un livre qui vient de sortir chez Grasset.
Un livre passionnant, me dit-on. C'est La Machine de Pascal. On vous invite, chers auditeurs, à lire ce livre de Laurent Lemire qui paraît aujourd'hui.
Ah oui, alors ça, je vous encourage à le faire parce que Laurent Lemire est un excellentissime vulgarisateur. Il avait écrit les scientifiques qui ont eu raison trop tôt. Un très intéressant livre pour les nuls dans mon genre qui n'y connaissent rien.
On va voir si vous êtes aussi nul que ça dans le quiz.
Europe 1, historiquement vôtre.
Son prochain livre, « Mille et une méthodes pour tricher sans se faire prendre dans le quiz », sera certainement un carton.
À l'époque, j'étais à Madame Figaro, j'avais testé toutes les méthodes.
Oui, mais gagner comme ça, est-ce encore gagner? Jouons à Burn to be Alive, Stéphane. 14 juin 1777, les États-Unis adoptent la première version de leur drapeau avec 13 étoiles. En 1960, c'est un drapeau avec 50 étoiles. Mais si vous allez à Disneyland, ce qui vous arrive assez souvent, les drapeaux n'ont jamais 50 étoiles. Vrai ou faux?
Attendez, vous voulez dire qu'il y a des drapeaux américains qui n'ont pas le même nombre d'étoiles en fonction des endroits où ils sont?
C'est ce que je dis. Mais est-ce vrai ou est-ce faux? C'est à vous de le décider.
Ce serait ridicule, vous allez acheter chez un marchand de drapeaux, on fabrique un drapeau américain, il est homologué, c'est un drapeau américain.
Si vous avez 48 étoiles, vous le rapportez, vous faites rembourser.
Mais Stéphane, ça pourrait être un truc du style, voilà, c'est Disney, c'est un monde à part, c'est Wonder World, donc on rajoute, c'est comme un monde à part sur le continent américain. On rajoute une 51e étoile sur un drapeau qu'on ne voit qu'à Disneyland, en Europe et en Floride. Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça?
Je pense qu'effectivement, il n'y a pas le même nombre d'étoiles. Il y a un drapeau spécifique pour Disneyland.
Oui.
Disneyland est un monde magique où il y a un autre drapeau. C'est des dollars. C'est des dollars de
sérieux avec elle, ils disent.
C'est pas trop loin, dites-moi juste vrai ou faux.
C'est vrai.
Vous avez gagné.
Il a dit avec beaucoup d'assurance là, ouais. Ils ne sont pas à proprement d'authentiques drapeaux américains, ils ne sont pas homologués, mais pourquoi? Pourquoi ces drapeaux? Eh bien, ça permet de les laisser tout le temps en place, alors que s'ils avaient été des drapeaux officiels américains, eh bien, il aurait fallu parfois les hisser,
ou les mettre en berne.
Ouais. Et généralement, donc, il manque une ou plusieurs étoiles, voire carrément une bande entière, si vous allez à Disneyland, voilà.
C'est malin.
Ouais.
C'est malin.
Ouais,
ouais. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Annette Kellerman est une pionnière dans son domaine, et son domaine, c'est la natation. Elle est la première femme à tenter la traversée de la Manche à la nage, et elle va être à l'origine de la discipline de la natation synchronisée. Plus jeune, pour gagner sa vie, elle faisait des shows aquatiques en sirène. Par contre, elle a été arrêtée pour indécence car elle était seins nus. Vrai ou faux ?
Non, pas du tout. Annette Kellerman, sa particularité, c'est surtout qu'elle avait la polio quand elle était enfant. Elle était australienne et elle a eu pendant longtemps des attelles métalliques. Et on lui a fait faire de la natation intensive pour soigner sa polio, pour qu'elle puisse quand même marcher. Et c'est une histoire extraordinaire parce qu'elle est devenue une championne de natation, en effet. Elle a participé en Europe à de nombreuses compétitions auxquelles participaient essentiellement des hommes, et des compétitions fluviales. Elle a en effet tenté une traversée de la Manche. Je ne sache pas quelle a été la première. Mais en revanche, elle a en effet été arrêtée sur une plage aux États-Unis parce qu'elle portait un maillot, une pièce, parce qu'au départ, dans ses compétitions, elle portait une sorte de combinaison en laine super lourd qui la plombait complètement pour participer. Donc elle a mis au point un maillot qui est le maillot, une pièce qu'on appelle le maillot Kellerman. Et en effet, elle a été verbalisée, mais c'est une façon aussi de faire de la com. Elle a été verbalisée pour port d'un maillot indécent. En revanche, il est exact qu'elle a été la première femme à être montrée nue, à apparaître nue dans un film de cinéma.
Vous avez gagné.
Pas de bol, Stéphane, vous êtes tombé sur la biographe officielle d'Annette Kellerman qui nous a raconté toute sa vie dans le détail, et tout ça était
je
juste
trouve que c'est absolument un... Et effectivement, c'est elle qui a inspiré les films d'Esther Williams la jolie naïade là, qui nageait dans un aquarium et faisait des... C'est marrant que ce genre de film ait tellement marché au lendemain de la guerre, de ces jolies femmes en maillot là, qui font de la natation synchronisée. Ça paraît un peu glu maintenant, non, tout ça.
Ben oui, mais on est en 1907 à Boston quand elle apparaît en maillot de bain, plus pratique qu'un pantalon de nage. Annette est donc la pionnière du maillot de bain. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le 5 novembre 1996, c'est le jour des résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis. Et pourtant, avant que les résultats soient connus, la page des mots croisés du New York Times donnait le nom du vainqueur. Vrai ou faux ?
La page des mots croisés donnait le nom. Ah, c'est marrant. C'est l'auteur des mots croisés qui aurait voulu, dans sa grille, dissimuler. C'était, le nom du vainqueur était dissimulé dans la grille de mots croisés ?
C'est la question.
Alors
que
attendez,
je vous pose.
Qui a gagné déjà en 1996 ? C'est Clinton. Donc oui, il a dû. Alors, Clinton peut répondre à quelle
Buffalo.
Définition
voilà, il aimait tuer les bisons.
Les bisons, Bill.
Oh, oui.
Je vous annonce déjà que je ne comprends pas l'explication que j'ai dans la réponse. Je vous l'annonce pour qu'on se prépare tous psychologiquement.
Alors,
et que vous m'aidiez.
Dans ce cas-là, c'est oui. Oui.
Vous dites oui,
oui. Vous avez gagné.
Vous avez gagné, Stéphane. Le principe des mots croisés, c'est trouver tous les mots par des définitions, mais aussi de trouver le mot final de la grille. L'auteur de la grille avait donné un mot à 7 lettres et 2 résultats étaient possibles, soit Bob Dole, soit Clinton. Exemple, je vous demande de réfléchir avec moi. Exemple, pour trouver la première lettre, il fallait trouver un animal noir d'Halloween. On pouvait alors répondre cat, ça donnait le C de Clinton, ou bat, chauve-souris, ça donnait le B de Bob Dole. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, le mot Clinton était caché dans cette grille.
Mais les deux étaient cachés, d'après ce que vous nous expliquez.
Les deux étaient cachés, tout simplement.
Donc il n'a pas donné le résultat. Ouais.
Non,
il a
donc mis Stéphane les deux. N'a pas vraiment gagné.
Moi je trouve qu'on devrait amputer un petit quart de point.
Non, bah,
un quart de point.
Non.
On rentre dans des niveaux de détails comme ça, un quart de point.
Ah bah oui,
mais là on est à haut niveau maintenant.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir ? Alexis de Tocqueville. Est-ce qu'Alex aurait pu boire une Guinness ? Je ne m'attendais pas à cette question.
Donc Alex est mort en 59, je crois. Est-ce que...
Il faut préciser, en
1859, hein. Non, me semble-t-il. Est-ce que on avait...
Oui, la bière Guinness, elle est là depuis... C'est une bière irlandaise, je crois.
Je ne vois pas de bière du tout, moi, donc... Oh, l'histoire de la Guinness.
Quand vous savez que la Cronenbourg est de 1664.
Ah, voilà, ça c'est une bonne indication. Donc je réponds oui, il aurait pu boire de la Guinness.
Vous avez gagné.
Ça, c'est pas compliqué, quand il y a une question sur la bière, c'est toujours la bonne réponse, c'est toujours très vieux la bière. Il a eu 100 ans même pour le faire, Alexis Tocqueville, pour s'envoyer une petite Guinness. Ouais. Il est mort, vous l'avez dit, très justement en 1859. La bière très brune date de 1759. Petite info en plus, sachez que dans cette bière, on trouve de l'ictiocol, une substance qui vient de la vessie des poissons.
Le poisson, bien sûr.
Oh, aux poissons, ça leur sert à déterminer la profondeur où ils veulent nager. Pour la bière, le produit sert à filtrer la bière, le saviez-vous ?
Non.
De l'ictiocol, un produit qui vient de la vessie des poissons.
Ictio, c'est le poisson.
Oui,
l'ictiologie, c'est la connaissance des poissons.
Dernière question.
Elle j'ai va... même pas un petit bonus pour 1859 sur la mort de Tocqueville.
On est à deux partout.
Ne cherchez pas le bonus. Question numéro 5, elle va vous départager. C'est la question de rapidité. Gottlob Burmann était un poète allemand, notamment connu pour avoir sorti en 1788 un recueil de 130 poèmes. Quelle était la particularité de ses écrits ? Trois propositions. Il n'y avait pas de R. Il y avait une insulte par vers. Il y avait des mots en anglais, en français et en espagnol, mais qui, germanisés, sont devenus des mots employés par la suite par les Allemands.
Deux.
Il y avait une insulte par vers. C'est votre réponse.
Oui, ouais, je trouve ça rigolo.
Un vers, une insulte. C'est rigolo, mais ce n'est pas la bonne réponse.
Trois.
Stefan Bern, expert en poésie allemande. Oui, il n'y avait pas de R, car il voulait donner...
Arrêtez, il va nous faire là, on va y avoir droit.
Mais vous
alors,
qui,
refaites-le, là.
Germanophile et germanophone, c'est étonnant, pas de R en allemand.
Oui, c'est difficile. Hein.
Difficile, il n'y avait pas de R.
Parce que le R, on le fait avec CH en allemand. Écoutez, moi, je m'appelle Kaltenbach, donc le R, on peut tout à fait s'en passer. Moi, c'est au contraire ce qui m'a induit en...
Mais oui, le Reichstag.
Oui, voilà. Mais c'est ce qui m'a induite en erreur. Je me suis dit, le R, on peut le faire avec le CH, donc c'est pas la bonne réponse.
Alors écoutez bien,
mes origines germaniques m'ont trahi.
Je vous donne la réponse.
Un vers,
non, je ne vous citerai pas de vers. Mais il n'y avait pas de R, car il voulait, ce poète, donner plus de douceur à la langue allemande. D'ailleurs, à partir de cette date, et pendant les 17 dernières années de sa vie, il n'a pas prononcé la lettre R, même pendant ses conversations, même pour dire son nom, Burmann. Alors il devait dire... Buhmann, je ne sais pas. Oui. En tout cas, c'est une victoire
de
Stéphane.
Je m'appelle Buhmann.
Merci, merci, merci.
Sur
merci
la poésie, public. Vous triomphez toujours.
Ouais. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et nous sommes à mi-chemin d'une émission passionnante sur les grands calculateurs de l'histoire.
4 x 4, 8. 8 x 8, 16. 16 x 16. 256, 256 fois 256, 65 536, 65 536.
Mathieu, des grands calculateurs, mais c'était à prendre au sens figuré.
Oh, con de moi.
Oui, 8 x 8, pas 16.
Oui, c'est 8 x 8.
Même en l'écrivant avant l'émission,
même là, vous n'y
arrivez
pas.
J'ai réussi à faire une bourde. Bon.
Bref, après vous avoir raconté la vie du cardinal Mazarin, je vous propose de retracer le destin d'un autre grand homme habile, un prince italien venu en France, le duc de Nevers. Quant à vous, Mathieu, comme on pouvait le craindre, vous avez dégoté un vrai calculateur, enfin un type qui calcule mieux que vous.
Oui, mieux que moi, c'est pas difficile. Sauf que mon type qui calcule, comme vous dites avec ce léger mépris, c'est un recordman du monde de calcul mental. Il est français, il s'appelle Alexis Lemaire, et vous verrez, il peut compter beaucoup plus loin que 1, 2 et 3 zéros.
Sans oublier nos habiles calculateurs dans le studio, les chroniqueurs, David Castel-Lopez qui nous raconte les origines du tatouage.
Tout à fait, personne ici n'a de tatouage, donc je vais pouvoir dire ce que je pense du tatouage.
Ce qui est bizarre, c'est qu'on voit des gens entièrement tatoués de la tête aux pieds. Quoi. Ça
c'était un peu transgressif, c'est devenu conformiste.
Oui, exactement, je n'osais vous le dire.
Mais le rebelle, c'est celui qui n'en a pas.
Et puis, le vrai rebelle, c'est celui qui bouffe du chili con carne.
Qui ne vient pas du chili, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Avant, un repas amoureux, par exemple. Nuit d'amour, vous voulez faire.
C'est audacieux. Nuit d'amour, on se prend un vent dans ce cas-là. Alors, Olivier Pouls.
Je vais quitter ce studio.
Contrairement à Mathieu Noël, qui pense que le chili con carne vient du Chili, je vous dirais que ce n'est pas le cas. Puis je vous donnerai une recette aussi. Et c'est vraiment, hormis les conséquences, c'est vraiment un très bon plat. Ouais, moi, j'adore.
Enfin, les amis, pas besoin d'être un génie en calcul pour deviner le résultat du quiz qui nous opposera en fin d'émission. Hein, David 0, Pouls 0, Bibi 1. Y aura-t-il une surprise dans la lutte finale ? Rendez-vous aux alentours de 6h moins le quart. Mais tout de suite, un jour, mon prince viendra. Un prince italien qui est venu en France et il savait compter comme personne. Stéphane Bern nous raconte l'habile calculateur qui a su poser ses pions et nouer des alliances bien utiles, le duc de Nevers.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Mantoue, au nord de l'Italie, en 1628.
Nous sommes en pleine guerre de succession. Après la mort du duc régnant, Vincenzo II, le défunt a nommé le duc de Nevers, un Français donc, pour prendre sa suite. Le duc de Nevers, qui œuvrait dans l'ombre depuis des années pour obtenir ce titre, n'est pas prêt de laisser la place à ses concurrents. Pour lever des troupes, il vend les collections d'art du château de Mantoue dont il vient d'hériter. Certaines œuvres sont de véritables trésors. Mais le duc n'a pas le choix s'il veut garder son trône, car la guerre nécessite beaucoup, beaucoup d'argent. Il loue surtout les services de 10 000 hommes et 1 000 chevaux pour 660 000 livres, mais ce n'est toujours pas assez pour défendre son duché italien. Charles de Nevers, dorénavant appelé Carlo I, appelle alors la France à l'aide. Après tout, je le cite, « Il est né français et sujet de sa majesté ». Mais comment un aristocrate français a-t-il pu obtenir un trône en Italie? Vous allez voir que c'est le résultat d'un savant calcul politique et aussi de quelques numéros de charme. Charles de Gonzague-Clèves, futur duc de Nevers, est né le 6 mai 1580. Ses parents sont l'un des couples les plus en vue à la cour de France. À seulement 14 ans, Charles entre au conseil du roi Henri IV qu'il appelle « mon neveu ». C'est un beau jeune homme, grand et élégant. On peut dire que Catherine de Lorraine, issue elle aussi d'une famille prestigieuse, a de la chance lorsqu'elle l'épouse. Enfin, de la chance. Il ne faut pas oublier que la famille de Nevers est sérieusement endettée, et même au bord de la banqueroute. Après le décès de ses parents, le duc de Nevers est bien décidé à mettre de l'ordre dans les finances familiales. Pour commencer, lorsque sa mère meurt, il fait faire l'inventaire de ses bagues, ce qui lui permet d'emprunter 15 000 écus pour les funérailles. Et en renonçant à une partie de ses revenus seigneuriaux sur plusieurs années, il éponge une partie des dettes dont il a hérité. Une autre solution serait aussi d'entamer des négociations pour diminuer certaines créances, mais cela prend du temps. Le duc de Nevers, impatient, préfère prendre le large, direction l'Angleterre. Car le duc ne joue pas seulement avec les chiffres, c'est aussi un habile calculateur au jeu diplomatique. Les têtes couronnées d'Europe ne lui résistent pas. Avec l'accord de son roi, le jeune duc de Nevers part donc faire un tour de l'autre côté de la Manche pour présenter ses hommages à la reine d'Angleterre, Élisabeth la Première. Il la charme tant que la souveraine de 69 ans lui fait l'insigne honneur de danser une gaillarde avec lui. Le duc doit partir, la voilà qui insiste pour qu'il prolonge son séjour et le convie à la chasse et à dîner. Bien entendu, le duc accepte ses invitations et pendant leur conversation ne cesse de faire valoir habilement l'amitié du roi de France pour la souveraine. Après avoir conquis l'Angleterre, le duc de Nevers séduit l'Empire romain germanique et son empereur, Ferdinand Ier. Mais une blessure au combat le force à rejoindre la France. Il a 26 ans et ne manque pas de projets ni d'ambitions. Il fonde sa propre ville, Charleville, dans sa principauté d'Arche. Et pour cela, plonge dans les arcanes de la finance. Il sait que l'économie est la clé de la réussite pour que sa ville devienne attractive. Le voilà qui frappe sa propre monnaie, développe l'artisanat et le commerce et met en place des avantages fiscaux pour tous les habitants. Le duc de Nevers a l'idée d'imposer des marchandises venant de France vers la Flandre et inversement lorsqu'elles transitent par Charleville. Il faut bien prendre l'argent là où il se trouve et même dans les caisses du roi de France. Oui, en 1624, alors qu'il s'apprête à partir au Levant pour se battre contre les Turcs à bord de ses navires, un émissaire du roi Louis XIII vient trouver Charles de Nevers pour demander de lui céder 5 de ses vaisseaux pour 100 000 livres durant 6 mois. Surpris, il répond d'abord qu'ils ne sont pas disponibles. Puis, nous raconte Claude Grimmer dans une biographie du duc de Nevers, comme ses affaires sont mauvaises, le voilà qui change d'avis et fait monter les enchères. Il sait que le roi, en pleine guerre, a besoin de ses navires. Il va jusqu'à réclamer 270 000 livres, plus du double que ce qui lui avait été proposé par le gouvernement. Finalement, le duc ne part pas se battre contre les Turcs. Il nourrit une nouvelle ambition, devenir duc de la ville de Mantoue d'où son père est originaire. La situation dans le duché de Mantoue est alors complexe. Vincenzo II, l'actuel duc de Mantoue, n'a pas d'héritier, sa femme étant trop âgée pour enfanter. Il se met donc en tête de faire casser son mariage par le pape, mais Charles de Nevers intervient à Rome en sous-main pour empêcher la dissolution du mariage. Il ne faut pas que Vincenzo II puisse avoir d'enfant pour lui succéder, car cela ruinerait tous ses espoirs. Nevers envoie son fils Charles, âgé de 16 ans, à la cour de Mantoue pour lui faire épouser une jeune cousine, Maria, la nièce du duc de Mantoue, ce qui le met en bonne position à la cour. Enfin, stratège, le duc de Nevers noue aussi des alliances sur place. Il sait que les cadeaux entretiennent l'amitié, alors pourquoi ne pas envoyer quelques diamants à son fils en lui conseillant de les offrir en gage de reconnaissance à ceux qui le soutiennent. Cette stratégie s'avère payante. Lorsque le duc de Mantoue, sans ses forces, le quitter, il fait son testament en présence de nombreux témoins et désigne Charles de Nevers comme héritier. Ce dernier arrive à Mantoue en janvier 1628 sous les applaudissements de ses sujets qui allument des feux de joie. Ce retournement de situation n'est pas au goût de tout le monde, et notamment de l'Espagne, qui n'apprécie pas qu'un Français soit en si bonne place italienne. La guerre est déclarée. Aidé par la France, Nevers ne perd qu'une partie de son duché italien, mais hélas, son fils meurt en août 1631, miné par le conflit. Désormais, Charles de Nevers, duc de Mantoue, s'attelle à remettre son duché, ruiné par la guerre, sur pied. Il réclame de l'argent au gouvernement français, qui se fait tirer l'oreille. Ne renonçant pas à ses vieilles habitudes, le duc essaye de ruser. On ne veut pas lui envoyer de soutien ? Il précise dans une lettre que sa situation est telle qu'il sera peut-être obligé d'accepter, contre son intention première bien sûr, d'autres offres qu'on lui a faites et dont la France subirait le contre-coup. Est-ce un dernier coup de bluff génial ? On ne le saura jamais puisque, pris de fièvre, il meurt très rapidement, à l'âge de 57 ans, le 22 septembre 1637. Ce duc très ambitieux rêvait d'étendre son pouvoir sur l'Europe. Sa descendance s'en occupera pour lui, puisque par sa fille Anne, il est l'aïeul des rois de France Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, ou encore du roi d'Espagne actuel, Felipe VI. Entre manigances et intrigues, le duc de Nevers y a mis les moyens, mais il est parvenu à ses fins.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du duc de Nevers, nous sommes avec l'historienne Claude Grimer, qui lui consacre une riche biographie qui nous a aidé à l'écriture de ce récit.
Oui, bonjour. Bonjour. Claude Grimer, vous êtes spécialiste de la période moderne. Vous venez de publier chez Fayard « Le duc de Nevers, prince européen sous Louis XIII ». Le duc de Nevers vient d'une famille très en vue à la cour de France. Pour les personnes comme lui, tout l'enjeu était donc de maintenir le rang de ses aïeux, j'imagine. Dans votre livre, vous le décrivez comme un ambitieux sans en avoir toujours les moyens. C'était donc là tout le dilemme de sa position, de son titre et de son manque d'argent.
Oui, c'est un peu aussi le rôle de toutes les noblesses et de toutes les princes de l'époque. Hein. On vit toujours un peu au-dessus de ses moyens. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de terres et en fait, on emprunte sur les terres et les gens prêtent parce que finalement, hein, quand on ne peut plus payer, eh ben, on vend une seigneurie ou on vend une partie des terres.
Et vous dites aussi, et c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui, qu'il a les qualités d'un joueur d'échecs. Il voit loin, place ses pions, échoue parfois, mais jouera quelques coups brillants. D'où lui viennent ces qualités, selon vous ? Elles sont innées ou c'est juste quelqu'un d'intelligent qui sait s'adapter au fil du temps ?
Je crois vraiment que c'est une éducation. Il a une éducation vraiment hors du commun par rapport même à son époque. Sa mère, Henriette de Clèves, a désiré reprendre auprès de lui son propre maître, qui est Blaise de Vigenère. C'est un savant, un spécialiste de l'hébreu, un homme qui aime bien l'astrologie. Et de ce fait, c'est lui qui va devenir une sorte de mentor pour lui. C'est un très grand diplomate qui lui enseigne tout ce qu'il faut savoir et aussi comment on doit être digne de son lignage. Et évidemment, il l'entretient dans ce mythe qu'il descend de l'empereur Constantin et qu'il doit être à la hauteur. Et
ce qui est fascinant chez ce duc de Nevers, c'est aussi qu'il crée sa propre ville et actuelle Charleville-Mézières, dans laquelle il frappe aussi sa propre monnaie et décide lui-même des impôts. Comment il a pu faire tout ça ?
Il a pu faire ça parce qu'il était prince. Tout autour de la France, à l'époque, il y a des petites principautés. On a gardé aujourd'hui Monaco. Et en fait, il est vraiment indépendant dans cette toute petite terre, dans une boucle de la Meuse. Alors, il a pu faire ça grâce à de l'argent, bien sûr, mais aussi parce qu'il en rêve depuis tout le temps. Il a, dans sa bibliothèque, à l'âge de 15 ans, des livres sur la création de Rome, sur la création d'Alexandrie. C'est vraiment, certainement, un rêve de jeunesse entretenu justement par Blaise de Vigenère. Et dès qu'il peut, il essaie de fonder une ville qui portera évidemment son nom.
Oui, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre, c'est qu'il se rêve en Alexandre, donc en roi bâtisseur. Il voulait faire de cette ville de Charleville une utopie, une cité idéale en quelque sorte.
Certainement au départ une cité idéale, oui, une cité qu'il construit dans l'esprit du temps, hein, avec des avenues très larges, une place ducale, où il va recevoir les gens les plus fameux. Il fait en faire une vitrine de l'excellence, je dirais. Mais en même temps, si je puis dire, il a certainement une autre idée, et la grande idée, c'est d'en faire la capitale de l'Europe chrétienne. On a cette idée dans une petite lettre que Angelucci, son premier consuls envoient, vous aurez toute l'Europe à vos pieds. Et le fait qu'il ait appelé toutes les rues de la ville par des noms de saints, hein, c'est quand même assez symbolique. N'oublions pas qu'il y a aux portes de l'Europe à ce moment-là les musulmans et c'est vraiment sa bataille.
Stéphane racontait que lorsque le roi de France, alors Louis XIII cette fois-ci, veut lui acheter des navires, le duc de Nevers fait grimper les enchères et double carrément la somme que le gouvernement lui proposait, ou encore lorsqu'il a besoin d'aide et que la France rechigne à lui donner de l'argent, il fait croire qu'il va accepter l'aide d'un royaume voisin. Plus qu'un calculateur, le duc de Nevers, c'était un sacré bluffeur. Il aurait été meilleur en poker encore qu'aux échecs, non ?
Je crois qu'effectivement, c'est un peu, quelquefois, un parti de poker. Mais d'un autre côté, il est dans une Europe où on s'entre-déchire. Et au fond, on ne saura jamais si l'Espagne n'a pas essayé, effectivement, de le mettre dans sa poche.
Et justement, l'Espagne, évidemment, voit d'un très mauvais œil le jour où il devient duc de Mantoue à la mort de Vincenzo II. Est-ce que ce duché représentait un territoire très grand, très puissant. Est-ce qu'il avait un véritable intérêt stratégique ?
C'est absolument incroyable. D'abord, Mantoue, c'est quand même une très belle ville. Oui. Hein. Toute personne qui a été, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est vraiment dans la plaine du Pô, entouré d'eau. Et c'est en fait un verrou de passage entre les troupes de l'Autriche et tous les États italiens, Florence, Rome particulièrement, et de l'autre côté la France. C'est comme un verrou, d'autant plus qu'il n'a pas seulement Mantoue, il a une partie du Piémont. Donc, de ce fait, effectivement, il contrôle ainsi, d'une certaine manière, les troupes.
Dans votre livre, vous racontez que le duc de Nevers a essayé de reproduire à Mantoue ce qu'il avait en fait impulsé à Charleville, une idée de cité utopique avec beaucoup de réformes pour la santé, l'hygiène, la police, pour lutter contre les épidémies, les incendies. Il avait finalement des idées très modernes.
Oui, alors d'abord, il faut dire que après donc la guerre de Mantoue, ce qu'on appelle la guerre de Mantoue, et il retrouve son duché, mais dans un état assez lamentable. Donc il n'a pas tout à fait la même position qu'à Charleville, parce qu'à Charleville, il a créé une ville ex nihilo, tandis que là, il est obligé de faire avec, évidemment, les ruines, si je puis dire, entre guillemets. C'est un homme qui, de toute façon, aime comprendre, aime savoir. Ça, c'est son éducation. Et il demande des enquêtes, que ce soit à Charleville, dans le Rethélois, dans le Nivernais ou à Mantoue. Il demande des enquêtes, qui sont les habitants, comment il va pouvoir faire. Et effectivement, il a des idées très très intéressantes sur ce plan-là.
Que reste-t-il des calculs, des habiles calculs politiques du duc de Nevers après sa mort en 1637 ?
En 1637, il laisse en fait trois filles, dont la fille aînée, Marie de Gonzague, qui est née pour être reine, dit-il lui-même, et qui finira effectivement par épouser le roi de Pologne. Et qu'est-ce qu'il restera ? Ben, moi, je dirais il reste Charleville. C'est quand même ça peut-être le plus intéressant. Hein, il reste Charleville, il reste Nevers encore. Hein, et à Mantoue, il a essayé de reconstituer un peu son palais, des collections aussi qu'il a commencé à reconstituer. Mais en fait, c'est vrai que son image va peu à peu pâlir face au déclin finalement du duché.
Mais merci beaucoup, Claude Grimer. Je rappelle le titre de votre biographie sur le duc de Nevers, le duc de Nevers, prince européen sous Louis XIII, qui vient de paraître aux éditions Fayard.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque d'habiles calculateurs. Après le cardinal Mazarin et le duc de Nevers, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un super calculateur, mais alors au sens propre, hein, le champion du calcul mental, Alexis Lemaire.
Oui, l'humanité se divise très clairement entre ceux qui sont capables de calculer de tête le montant final de leur course au supermarché et ceux qui doivent utiliser la fonction calculette de leur iPhone.
Vous n'avez personne pour faire vos courses ?
Non, Stéphane, je n'ai personne pour faire mes courses. Ça, c'est sûr, vous êtes rarement en situation de pouvoir tester votre niveau en calcul mental. Ce qui est sûr, c'est qu'il est infiniment inférieur à celui d'Alexis Lemaire. Alors pourquoi ? Eh bien, simplement parce que si le western a Gary Cooper, la littérature Victor Hugo et le hip-hop Kanye West, le calcul mental a Alexis Lemaire, un doctorant français qui a réalisé en 2008 la plus grande opération jamais calculée de tête, et ce, en 70,2 secondes seulement. Quelle opération vous trépignez d'impatience, Stéphane, et c'est touchant, mais sauf votre respect, est-ce vraiment important? Je peux vous le dire, mais vous allez en faire quoi? Essayer de battre son record? Dire un nombre au hasard? Y aller au bluff, comme vous faites dans le quiz? Je vous mets déjà au défi de comprendre l'opération elle-même. Calculez de tête, donc, la racine 13e d'un nombre à 200 chiffres.
Oula.
Bien. David, peut-être le moins con d'entre nous, le racine carrée d'un nombre à 200 chiffres?
Ah, je sais pas.
Oui, oui.
Ah!
Mais non, bien sûr que vous ne savez pas, personne ne sait, personne ne comprend même ce qu'il faut faire, sauf Alexis Lemaire. Reprenons. Alexis Lemaire est donc titulaire d'un doctorat en informatique spécialisé en intelligence artificielle. Le 11 décembre 2007, au Musée des sciences de Londres, il a trouvé le nombre qui, multiplié 13 fois par lui-même, donnait le numéro qu'avait choisi l'ordinateur au hasard. Ça lui a pris 70 secondes. Là, David, vous êtes de nature jalouse, vous vous dites « le mec a eu juste un gros coup de chatte ». Alors, c'est peu probable, il avait une chance sur 393 000 milliards de tomber au hasard sur la bonne réponse. À ce stade-là, c'est plus de la chatte, c'est toute la SPA. Alors, non seulement Alexis a battu un record, mais il a battu son propre record, qui battait déjà un précédent record à lui. Le mec s'éclate tout seul. C'est vrai que j'ai un cerveau qui fonctionne vite, parfois très vite, commente modestement Alexis Lemaire. Alors, pour le commun des mortels, avoir un cerveau qui fonctionne vite, c'est répondre Carapicho dès les premières notes dans un blind test. Alors,
Carapicho.
Oh la vache. Pas vrai pour les championnats du monde de calcul mental. Un cerveau qui fonctionne vite, c'est ça. Ou résoudre une grille de mots fléchés niveau 2 dans un Téléstar spécial jeu et charade en seulement 15 minutes. Ou encore choisir la file qui avance le plus vite au péage de Saint-Arnoux. Alexis Lemaire ajoute presque taquin « Mais tout le monde peut développer des capacités de calcul mental similaires à celles que j'ai utilisées. » Mais qu'est-ce qu'il dit? Évidemment que non, Alexis. Tout le monde ne peut pas. Réveille-toi, tu es fou. Regarde autour de toi. Stéphane n'arrive à compter qu'à l'aide d'un subterfuge mnémotechnique.
Louis Ier, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V,
oui,
Louis VI,
oui.
Louis VII.
Quant à Olivier Paul, c'est tout juste, il sait compter jusqu'à 3.
Et je retire le bouchon. Et 2. Je mets un petit glaçon. Et 3. Je verse la boisson.
Comment devient-on un génie du calcul mental? Eh bien, en tombant très jeune dans la marmite des chiffres. À 9 ans, Alexis reçoit sa première calculette. Et au lieu simplement de s'en servir, comme nous, il va essayer de la comprendre. J'essayais de comprendre ce que voulaient dire toutes ces touches, ce que cachait arithmétiquement celle qui rendait la racine ou le logarithme. J'ai alors eu la satisfaction de connaître ces procédés de calcul, puis de les généraliser. Fait étonnant, Alexis ne fait pas des étincelles à l'école, non, il n'est pas dans les premiers de la classe. Mais à 11 ans, c'est la révélation. Il feuillette le Guinness Book des records et il tombe sur le record du plus rapide calcul de la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres, à savoir 39 secondes. Il raconte « Ce calcul, d'apparence insoluble, était pour moi un mystère. Ça a suscité ma curiosité. » Il s'enferme alors dans sa chambre pour trouver une formule de résolution. Une fois que j'y suis parvenu, je me suis rendu compte à quel point elle était performante. En 2002, à 22 ans, il explose le record à 13 secondes, puis à 3 secondes 6. Oh, c'est trop fastoche. Et si je m'attaquais à un nombre à 200 chiffres? Il y parvient grâce à une formule qu'il a trouvée et qu'il n'a jamais révélée, afin de ne pas se créer de concurrent. Mais Alexis, tu comprends pas? Tu peux nous dire ce que tu veux, on comprendra rien. C'est comme si Mbappé refusait d'expliquer comment il fait pour courir 100 mètres en 10 secondes 3 avec un ballon attaché au pied. Il le fait parce qu'il est lui, et nous on ne le fait pas parce qu'on est nous. Alors évidemment, un cerveau c'est comme un fessier, ça s'entretient. Alexis fait des algorithmes comme d'autres font des tractions. Son petit surnom dans le milieu, le Matlette. Ses amis, eh ben, des fans de calcul mental comme lui. Vous, Stéphane, à 20 ans, vous parliez de quoi avec vos potes?
On parlait de fellation,
oui.
On parlait de sodomie.
Oui, oui, oui. Oui.
Je vais pas donner
oui.
Tout le programme.
Non, ne donnez pas tout le programme, mais on comprend, on voit l'idée. Mais comme tout le monde. Oui,
vous êtes
oui, oui.
Ça
oui.
J'ai vu les mains.
Mais vous me disiez ça en tête, oui.
Non. C'était sur Julien Green.
Vous étiez sur Julien Green. Vous l'avez bien connu alors, contrairement à ce que vous disiez. Bref.
Vous balancez les bas morceaux, c'est très vil de votre part.
Mais ne parlez pas de vous comme ça. Non. Bon bref, la vie d'Alexis Lemaire est quasi monastique, vous l'avez deviné. Pas d'alcool, pas de café, de la course à pied et 4 heures de calcul par jour. Il est accro, sa dernière lubie, apprendre à parler sans langue. Pas sans langue. 99 plus 1, comment? Eh bien, en calculant, bien sûr, Alexis nous explique, lorsqu'un humain se met à parler, en fait, il calcule son langage, car il doit faire des phrases avec des milliers de mots disponibles. J'ai donc fait une expérience avec un programme informatique simple imitant le langage. Je l'ai exécuté dans mon cerveau, comme le fait mécaniquement un ordinateur. Ah bah oui, mon con, pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Au lieu de s'emmerder avec les guides Berlitz pour un résultat parfois décevant.
And Leonard Skynard.
Bon, rassurez-vous, parfois Alexis, quand même, il prend du temps pour lui. J'aime bien prendre parfois des jours de repos pour écouter un peu de musique, jouer aux échecs et converser en ligne avec d'autres mathlètes dans mon genre. Vous trouviez vos soirées de novembre chiantes? Relativiser, Stéphane, il y a les soirées entre champions de calcul mental. Alors Brian, ça a été ta semaine ? Wesh gros, disons qu'elle était mieux que la précédente puissance 3 facteur 7 que multiplie pi au carré. Ah génial, faut fêter ça. Pedro, mets-nous deux mojitos avec 27 centilitres avec la racine carrée d'un citron et un cinquième de glace pilée. Wouh ! Alors après, je suis un peu mauvaise langue parce que est-ce que c'est pas plus chiant une discussion entre historiens ?
Tu sais que René-Julien Schmalz, ouais. Eh bien, il a fait ses études au collège.
Ah oui ?
Oui.
Entre les mathlètes et les historiens, je sais pas quelle soirée j'ai envie de participer.
Moi, j'aurais adoré que ce soit quelqu'un de super sensuel, champion de salsa aussi.
Oui. Oui. Non, malheureusement, j'ai fouillé. Non, il n'est pas hyper sensuel, non.
Merci, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces calculateurs de génie, pour retrouver d'autres génies plus discrets.
Mais tout aussi calculateurs, notamment Olivier Pouls, qui nous parle aujourd'hui du chili con carne.
Si je vous dis 300 grammes de haricots pour 6 personnes, si on est 8, combien il en faut ?
J'en sais rien. Ah ben on va appeler Alexis Le Maire. Mais vous nous donnerez quand même la recette du chili con carne.
Évidemment, carnet. Avec moi, les bonnes proportions.
J'ai prononcé beaucoup trop de chiffres pour moi, pour mon
et
cerveau.
Et carne, hein. C'est de la viande.
Ah, bien sûr, oui. Bien sûr. Et avec nous également, Stéphane, on va commencer avec lui, comme d'habitude, c'est David Castello-Lopez, oui. Qui remonte aux origines de tatouages. Quelque chose qu'il n'a pas.
Oui, moi je suis un peu partagé sur les tatouages. Il y a une grosse partie de moi quand même qui trouve ça ridicule. Parce que le tatouage aujourd'hui, c'est une sorte de petit frisson bourgeois inoffensif qu'on s'offre parce qu'on s'ennuie. On se met un petit morceau d'éternité dessus et du coup, quand on retourne au bureau le lundi matin, on a l'impression d'exister davantage. C'est une solennité artificielle qui sent assez fort le besoin de compenser un truc. Vous voyez, je pense que c'est... Mais je dois aussi avouer quelque chose, c'est que les tatouages, je trouve ça sexy. En tout cas, sur la frange de l'humanité sur laquelle la nature m'a fait pencher, hein, savoir les filles. Alors bien sûr, quand le tatouage se trouve sur un endroit un peu osé en soi, on comprend. Moi, je me souviens d'avoir 18 ans à la terrasse d'un café et de voir passer une fille devant moi qui avait une fleur tatouée sur la paroi intérieure de sa poitrine. Eh ben, c'était il y a 22 ans et le sentiment, ça a duré une seconde et demie, le sentiment est exactement aussi fort aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, même sur l'épaule ou sur la cheville, je trouve ça sexy. Et oui,
c'est sexy.
Et si je pousse la confession jusqu'au bout, j'ai l'impression que c'est parce que j'ai beau considérer que le tatouage aujourd'hui, c'est la chose la plus conformiste du monde, mon inconscient, il considère encore que c'est un peu transgressif et interlope. Donc il y a une sorte de « Oh là là, il y a un tatouage !» quand même, c'est osé. Hein, il y a un petit truc comme ça, même si dans les faits, ça ne l'est plus. Mais alors, est-ce que les origines du tatouage sont aussi érotiques que ce que mon esprit tordu imagine ? Non. Alors, au fond, c'est dur à dire quand même, parce que les origines du tatouage, elles se perdent vraiment dans la nuit des temps. Vous connaissez par exemple Ötzi ?
Ötzi, c'est on en a parlé ici. Oui. Ötzi, on l'a retrouvé dans la neige, dans la glace.
Exactement, c'est un monsieur qui a vécu il y a 34 siècles avant Jésus-Christ, quand même, donc il y a plus de 5000 ans, et qui a été découvert donc congelé dans un glacier des Alpes. Eh bien, Ötzi, il a fait des tatouages, vous voyez ? Donc bien ça sûr. Fait quand même un sacré moment que ça existe. Il y a même des momies péruviennes plus anciennes encore sur lesquelles on a découvert des tatouages. En fait, à peu près toutes les cultures du monde ont utilisé des tatouages d'une façon ou d'une autre à un certain moment de l'histoire. Donc c'est dur de mettre le doigt exactement sur la civilisation qui les a inventés. Ce qui est plus facile, c'est de savoir d'où vient le mot tatouage. D'où ça vient, à votre avis ?
Ça vient des Maoris ?
Non.
Tatou.
C'est un mot anglais, tatou. C'est un mot anglais.
C'est un mot anglais, mais qui vient d'un mot polynésien.
Tatao,
qui est un mot tahitien qui veut dire marque sur la peau. Et ceux qui ont ramené ce mot de Polynésie, ce sont les Anglais qui faisaient partie de l'équipage de James Cook, qui était un explorateur anglais du XVIIIe siècle. Et de fil en aiguille, c'est devenu une marque associée aux marins en particulier. Et ça avait des significations. Par exemple, si vous étiez un marin qui était allé au sud de l'équateur, vous tatouiez une tortue. Si vous aviez traversé l'Atlantique, paf, une ancre. Voyez. Et puis, il y a aussi, bien sûr, toute la tradition des tatouages forcés. Les Romains, ils tatouaient leurs esclaves pour pas qu'ils s'enfuient. Au Japon, à partir du 7e siècle, les criminels, ils étaient tatoués, ce qui a donné lieu beaucoup plus tard au fait que les Japonais, hors la loi, ont commencé à rajouter des formes aux tatouages forcés qu'on leur avait fait. Et ça a donné, au bout d'un moment, les tatouages yakuza. ça. Alors, les tatouages, traditionnellement, ils se faisaient avec des ustensiles qui faisaient super mal. Bon, ça fait encore mal maintenant, mais c'était des, vous voyez, c'était des manches avec une aiguille et on tapait sur le manche avec une sorte de petit marteau. C'était extrêmement douloureux. Et donc, l'histoire du tatouage, elle a pris un tournant décisif quand on a inventé la machine à tatouer. Et de quand elle date, ces machines à tatouer, à votre avis? Un petit quiz, comme ça, encore une fois.
Les années 20e siècle, ce
moi, je dirais fin du 19e.
Fin du 19e, très exactement, 1891, inventé par un Américain qui s'appelait Samuel O'Reilly. Bon, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est presque devenu la norme, le tatouage. Les statistiques les plus récentes sur le tatouage que j'ai trouvées, elles datent de 2018. Et donc, je peux vous dire qu'en 2018, aux États-Unis, 30% des gens, ils avaient un tatouage. 3 personnes sur 10, 4 personnes sur 10 chez les 18-34 ans. En France, en revanche, c'était que 18% encore, mais 29% chez les 18-34 ans. Tout ça, c'était il y a 3 ans, donc il faut imaginer que c'est encore plus aujourd'hui. Donc il y a bien un moment, on le sent, où une majorité de gens va finir par avoir un tatouage. Et peut-être que ce jour-là, je cesserai de trouver ça sexy.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Prenons maintenant la direction du Chili pour découvrir une recette qui me tient à cœur, Olivier, la recette du Chili con carne, bien sûr.
Bien sûr, bah oui, non, pas forcément du Chili, mais vous avez une idée du pays dans lequel le Chili con carne est né? Eh bien non, mais ça doit perdu
être... ça doit c'est être
l'Amérique du Sud,
non.
L'Amérique.
Non. Eh bien, la Suisse. Ce sont les États-Unis. Et ça fait partie de ces pays, oui, vous l'avez dit, c'est le Texas, ça fait partie de ces recettes qu'on attribue aux Mexicains, qu'on met dans ce qu'on appelle la Tex-Mex Food. Mm. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, en 1959, dans un dictionnaire mexicain, on peut lire ceci à la définition de chili con carne: nourriture détestable, se faisant passer pour mexicaine, vendue aux États-Unis du Texas jusqu'à New York. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas du tout l'idée du chili con carne, parce que le chili con carne est bien né aux États-Unis. Mais alors, on ne sait pas très bien ni où, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais on a plusieurs pistes que je vais vous livrer. Vous choisirez la vôtre. Elles sont assez amusantes. Alors, certains prétendent que c'est un plat qui aurait pu être créé par les prisonniers de ces États du Sud d'Amérique. Et on leur donnait souvent du piment, parce que le piment était un ingrédient pas très cher. Et que pour célébrer leur libération, ils faisaient cette espèce de ragoût contenant du piment. C'est l'une des théories. L'autre théorie, c'est que ça pourrait être un plat dérivé d'un moyen de conservation de la viande des Amérindiens, des Indiens d'Amérique, donc qui avaient l'habitude, eux aussi, de faire ces ragoûts dans lesquels on rajoutait les piments, parce qu'on sait que le piment, c'est un peu antiseptique et que ça permettait de garder la viande plus longtemps. Puis j'en propose une autre. Ça pourrait être un plat proposé à l'origine par des femmes qu'on appelait les Chili Queens, qui étaient les reines du piment.
Ça a l'air d'être bien crédible, cette version-là.
Non, ça fait partie des hypothèses les plus crédibles, qui étaient les reines du piment et qui faisaient dans les rues de San Antonio des plats emportés, mijotés, et qui étaient à base de piment. Alors, vous l'aurez compris, dans le chili con carne, il faut évidemment
du piment,
et puis carne de la viande. C'est généralement de la viande de bœuf qui était coupée en petits morceaux ou hachée. Et le tout mijote assez longuement. Il faut dire que pendant longtemps aussi, les prêtres et les religieux de ces États du Sud des Amériques n'aimaient pas ce plat et s'en méfiaient, parce qu'il avait une couleur rouge, et ils le baptisaient d'ailleurs la soupe du diable. Et le plat n'avait pas bonne réputation. Alors il n'y a pas un plat, en fait, il n'y a pas un chili con carne, mais il y en a plein, de nombreuses recettes, en fonction évidemment des ingrédients qui la composent. Je vais vous donner ma recette, que vous pourrez refaire. Ça prend juste un petit peu de temps parce qu'il faut mijoter tout cela. Mais en dehors de ça, c'est franchement facile à faire. Il vous faut 500 g de viande de bœuf hachée, une boîte de tomates pelées puisqu'on n'est plus en saison, une cuillère à soupe d'épices chili qui contient donc du piment évidemment, de l'ail en poudre et de l'oignon, une cuillère à café de cumin aussi qu'on met dedans, une petite boîte de maïs, un piment, si vous arrivez à en trouver un, des haricots rouges évidemment, très important, de l'ail, un gros oignon, un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors, vos haricots rouges, il faut les faire tremper toute une nuit dans de l'eau, de manière à ce qu'ils se réhydratent. Et ensuite, on va les cuire. C'est un petit peu long. C'est une heure de cuisson à petit frémissement.
Déjà,
à peu près.
Attendu toute une nuit entière. Ensuite, t'attends une heure encore.
Oui, attention, la cuisine, ça prend parfois un petit peu de temps.
Moi, je les surveille.
Si vous voulez acheter des haricots en boîte déjà cuits, vous pouvez le faire, vous allez gagner du temps, mais ce sera moins bon. Vous allez faire revenir l'oignon et l'ail qui ont été émincés dans un petit peu d'huile. On rajoute la viande, puis les tomates, le piment évidemment, le cumin. On laisse mijoter 10 minutes. On ajoute ensuite les haricots. On laisse encore mijoter une vingtaine de minutes. On ajoute le maïs à la fin. On rajoute sel, poivre en fonction. Et c'est vrai que ce sont des plats qui sont, comme toujours, meilleurs quand ils sont encore réchauffés, quand ils ont cuit très longtemps. Moi, j'adore ce jeu de texture entre la viande, le haricot qui a beaucoup de saveur, et puis ce piment qui vient réveiller tout ça.
Vous aimez bien, vous, les jeux de texture, hein, en
général. Oui, mais puis, je trouve que c'est un plat auquel on ne pense pas assez. Et en plus, on est dans la saison des haricots. Il fait un petit peu froid, les plats
mijotés. Il faut y aller,
c'est bien. Il faut y aller, allons-y.
Ce soir, enfin, demain plutôt.
Demain, parce que le temps de le faire. Mais voilà, plat américain, non pas mexicain, et encore moins chilien.
Et encore moins chilien, évidemment. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, après le chili con carne, on va voir qui va péter les scores.
David essaye de se cacher.
On va jouer avec l'histoire. Oui. Vous êtes prêts à vous affronter dans la lutte finale?
Ah oui, très prêt.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe, une question pour chacun d'entre vous, en cas d'égalité, une dernière question pour vous départager avec un chiffre à donner, il faudra vous approcher au plus près de la bonne réponse. Alors, je commence avec vous Olivier, il n'y a pas que la ville de Pompéi qui a été ensevelie par le Vésuve en 79, il y a eu aussi la cité d'Infantaria, c'est vrai ou c'est faux?
Oui, c'est vrai, je l'ai visité là.
C'est Herculanum.
C'était la meilleure.
C'est Herculanum. C'est pas bien de vous moquer.
Oh non,
oui, c'est vrai, c'est Herculanum.
Je vais
vous dire un truc, je n'ai pas écouté la question jusqu'au bout. J'ai pensé tellement
facile. Ça a été ton erreur.
Ben oui, parce qu'en fait, je suis allé à Pompéi et j'ai visité Herculanum, qui est l'autre petite cité.
Exactement.
Qui est, en fait, même plus belle à voir parce qu'elle est plus authentique, elle était moins refaite.
Et c'est pas de te rattraper.
Non, mais j'ai pas écouté le nom.
Alors David, à vous. En 1934, un mathématicien français fait une découverte étonnante concernant la grande pyramide de Khéops à Gizeh. Il y a 8 faces. Vrai ou faux?
La grande pyramide de Khéops à Gizeh,
bah, c'est Khéops, Khéfren et Mykérinos, c'est les 3 grandes pyramides, quoi.
Oui. Mais
8 faces?
Pourquoi il y a 8 faces? 1, 2, 3, 4. Pourquoi il y aurait 8 faces? Il y aurait une autre pyramide à l'intérieur? Je dirais non, c'est faux.
En fait, il y a 4 faces, évidemment, mais qui ne sont pas totalement planes. Elles sont toutes les 4 légèrement découpées en 2, par un angle allant vers l'intérieur de l'édifice. La pyramide de Khéops à Gizeh était en fait un polygone concave à 8 faces.
Je pourrais bien avoir Herculanum, plutôt.
Mathieu, Guillaume le Conquérant a été duc de Normandie et roi d'Angleterre. Vous le savez certainement.
Je le sais, son château est à Falaise.
Voilà, il est inhumé à Caen, à l'abbaye aux hommes. Voici mon affirmation. Il est mort obèse. Vrai ou faux?
Alors, j'ai visité le château de Guillaume le Conquérant à Falaise.
Est-ce qu'il y avait une cuisine importante ou pas?
Justement, je ne crois pas. Alors, Olivier, vous connaissez Falaise aussi, puisqu'on est allé ensemble faire le marché.
Bon. Magnifique marché, d'ailleurs.
Magnifique marché. Je pense que... Alors, je ne le sais pas, je ne me souviens pas. Je pense pas qu'il soit mort obèse. Donc, je n'ai pas envie de répondre ça. Je réponds qu'il est, il est pas mort obèse. Il est mort bien obèse.
Le moine Orderic Vital a raconté ses funérailles. Comme on descendait le corps dans la bière et qu'on s'efforçait de le plier, par la maladresse des ouvriers, le ventre trop gras creva. Alors, vous avez tous les 3 faux, donc il y a une question pour savoir lequel est le plus nul. La question qui départage, la réponse donc la plus proche, remporte la lutte finale.
Si je peux me permettre, il n'y a pas encore de question pour désigner vraiment le plus nul. On sait quel est le moins mauvais,
le
plus nul, on pourrait créer la question d'après pour départager les deux autres.
C'est vrai, c'est vrai. 1958, c'est la naissance de
la 5e
République. En Belgique, c'est la naissance des Schtroumpfs. Dans la BD, il est dit qu'ils sont centenaires. Mais quel âge a le grand Schtroumpf?
Son âge est donné.
Oui. Combien pour vous, David?
130 ans.
130 ans pour vous? 700 ans?
237.
237? Je ne sais pas, je crois que c'est Mathieu qui gagne.
Dites-nous.
Il est 542 ans.
Oui.
Ah bah oui, ah bah,
c'est complètement Mathieu.
Ah, c'est moi.
Ah bah, si on était un peu fort en calcul mental,
Alexis Lemay, il va nous aider. Ah bah écoutez,
c'est vous, Mathieu.
Oui, c'est toujours des comme ça, un grand âge, imaginez, vous avez les schtroumpfs. Ouais. Bah, je suis assez fier de cette victoire qui prouve une fois de plus à la France entière que je suis vraiment balèze en histoire, en histoire pure.
En calcul, surtout.
Je vais tenter 8, l'agrégation de maths et d'histoire. Je pense que je peux me présenter. Alors, historiquement votre spécial calculateur de génie, c'est fini. Stéphane, est-ce que ça vous a donné envie de mener votre carrière de manière un peu plus machiavélique jusqu'à présent ?
Puis-je me permettre de vous rappeler que ma carrière est à peu près terminée maintenant, c'est un peu tard.
Que dites-vous ?
Non, mais... En tout cas, bon, vous calculez bien maintenant.
Et je calcule bien. Si je calcule bien, on se retrouve demain à 16h.
Oui, vous avez fait de gros progrès aujourd'hui. Oui, demain à 16h, on réunit trois dames qui ont touché le fond de l'océan. La pionnière des océanographes et pionnière de l'écologie aussi, Anita Conti. Puis l'américaine, toujours en vie, qui a passé la sienne sous l'eau à tutoyer les fonds marins pour ses recherches qui ont fait date, Sylvia Earle.
Et elle, dans l'eau aussi, elle a touché le fond de la piscine avec son petit pull marine. Je dresserai le portrait à 99% vrai d'Isabelle Adjani. Alors à demain, Stéphane. À demain, les amis.
Formidable. À demain. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.